Il y a des despotes qui sont de vrais tyrans, assoiffés de sang, et qui ont donné leur titre au tyrannosaure, qui, paraît-il, est un monstre carnassier plutôt brutal. Mais d'autres oppresseurs sont un peu moins violents, comme le Perse Cyrus. Le prophète Ésaïe a parlé de lui plusieurs fois dans une première série de prophéties. Avec le chapitre 49 commence la seconde série de prophéties de la deuxième grande partie du livre d'Ésaïe, qui va des chapitres 49 à 57. L'accent se déplace du futur proche à l'avenir lointain, de l'œuvre que fera Cyrus à celle qu'accomplira le Messie, le serviteur de l'Éternel. La controverse avec l'idolâtrie est terminée. Le prophète ayant suffisamment montré que l'Éternel est le seul vrai Dieu, il n'y revient plus. Les Juifs qui sont revenus de Babylone ont compris cette leçon. Mais il y a une autre qu'Israël doit apprendre et qui va faire l'objet de la seconde série de prophéties. Alors que Cyrus n'est serviteur de Dieu que dans un sens secondaire, le Messie est le serviteur par excellence. Dans ses discours précédents, Ésaïe a fait pressentir que le salut promis ne se borne pas au simple retour de l'exil babylonien, mais qu'il comprend une délivrance bien plus importante et dont les effets s'étendent au monde entier. Ce message se précise davantage au fur et à mesure qu'on s'approche du chapitre 53, qui décrit les souffrances du Messie sur la croix, car dans la sagesse de Dieu, il fallait que le serviteur de l'Éternel soit humilié avant d'être glorifié. Dans la parole prophétique, Israël est souvent appelé « serviteur de l'Éternel » parce qu'il a été choisi pour représenter Dieu sur terre, mais ce fut un échec lamentable parce que l'homme a totalement été incapable d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi c'est le Fils lui-même, en la personne du Christ, qui a incarné le serviteur de l'Éternel, et qui l'est effectivement devenu par sa vie exemplaire. Il apparaît d'ailleurs dès le début de cette seconde section, et la prophétie déclare d'emblée que sa mission auprès d'Israël échouera, du moins dans un premier temps, puisque le peuple le rejettera. Mais le bénéfice de son œuvre s'étendra aux païens qui, avec le petit reste rescapé d'Israël ayant la foi, bénéficieront du salut et connaîtront la gloire dans le millénium. Je commence de lire le chapitre 49. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous peuples lointains, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel, et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Ésaïe 49, verset 1er. C'est le serviteur de l'Éternel qui parle. On apprend que c'est un être humain qui naîtra d'une mère et qui a été choisi depuis longtemps par l'Éternel. Quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle aura un fils, il lui a dit « Tu le nommeras Jésus ». Luc 1, verset 31. Le serviteur s'adresse aux îles et aux régions côtières qui représentent les peuples païens. En effet, le salut qui va accomplir et pourvoir, et qui est le sujet des discours suivants, n'est pas uniquement destiné à Israël, comme la délivrance de la captivité, mais au monde entier. D'ailleurs, Ésaïe a déjà annoncé l'universalité du salut à plusieurs reprises. Je continue. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, et il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a tenu caché dans son carquois. Ésaïe 49, verset 2. La main et le carquois sont des emblèmes de la protection divine. La bouche du serviteur est semblable à une épée et sa personne à une flèche. Ces images évoquent à la fois le jugement des nations et l'efficacité de sa parole capable de consoler et de juger. Quand Jésus était sur terre, ses contemporains ont dit de lui « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Le Christ sait manier la parole et l'épée. À la fin de l'histoire humaine aura lieu une grande bataille, et c'est lui qui conduira les armées célestes. Dans l'Apocalypse, on lit « De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations ». C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, les versets 15 et 16. Je continue le texte. Il m'a dit, « Israël, tu es mon serviteur. Je manifesterai sa splendeur au travers de toi. » Ésaïe 49, verset 3. Le peuple d'Israël est fier d'être appelé serviteur, mais il n'en est pas digne. Par contraste, le Messie est fidèle à sa vocation de serviteur et donc digne de porter ce nom qui est un badge d'honneur. Ce serviteur est aussi un nouveau Jacob, l'homme de qui sont issues les 12 tribus d'Israël. L'Évangile selon Jean identifie Jésus au véritable Israël, car c'est à partir de lui que se constitue le nouveau peuple de Dieu. Jérémie l'appelle le nouveau David parce qu'il doit restaurer la royauté israélite. Et dans sa première épître aux Corinthiens, Paul appelle Jésus le second Adam, car il est l'auteur d'une humanité nouvelle. Enfin, Ésaïe le considère comme un nouveau Moïse parce qu'il a conclu une nouvelle alliance par son sang avec le monde entier. Je continue de lire le chapitre 49. Cependant, moi j'ai dit, je suis fatigué pour rien. C'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Mais l'Éternel me fera droit, et il tient en réserve ma récompense. Ésaïe 49, verset 4. Le serviteur laisse entendre que la majorité des Israélites le rejetteront. Mais bien que, réprouvé, il garde toute confiance en l'Éternel. Son apparente défaite sur la croix, où il a vécu une totale ignominie, est en réalité la plus grande victoire que le monde ait jamais connue. Car par son sacrifice et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et pourvu au salut de tous ceux qui croient en lui, qu'ils soient juifs ou païens. Cette postérité spirituelle est sa récompense. Je continue. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui m'a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener Jacob à lui et pour rassembler Israël auprès de lui. L'Éternel m'a fait cet honneur et mon Dieu est ma force. Ésaïe 49, verset 5. Quand Jésus est venu, sa mission auprès d'Israël en tant que Messie était d'achever l'œuvre commencée par le retour de l'exil babylonien. Ramener le peuple de Dieu et opérer le rétablissement complet et glorieux qui lui est promis. Ce projet est différé, mais non abandonné, car il se réalisera à la fin des temps. Je continue. Et il a dit aussi, « Tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. » Car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, verset 6. Le serviteur rapporte ce que l'Éternel lui a dit. Sa tâche auprès d'Israël n'est qu'une partie de sa mission. Même si dans un premier temps elle échoue, il accomplira quand même l'œuvre principale qui lui est confiée, et qui consiste à apporter la lumière du salut au monde entier. À un moment donné de leur tournée missionnaire, Paul et Mardabas citent ce passage pour justifier leur décision d'abandonner les Juifs incrédules et d'aller vers les païens. Je continue. Voici ce que dit l'Éternel qui délivre Israël, qui est le Dieu saint, à l'homme méprisé et détesté du peuple. Celui dont les despotes ont fait leur serviteur. Les rois t'apercevront, et ils se lèveront. Les princes te verront, et ils se prosterneront, afin d'honorer l'Éternel qui est fidèle, oui, le Saint d'Israël qui t'a choisi. Ésaïe 49, verset 7. C'est Ésaïe qui parle. Il a déjà évoqué les souffrances du serviteur. Maintenant il annonce la gloire qui suivra son humiliation. Le rejet du Christ par Israël a catapulté la bonne nouvelle sur la terre entière. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Et si le faux pas des Juifs a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-Juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aurait-il pas dans leur complet rétablissement ?» Romains 11, verset 12. Je continue le texte. Voici ce que dit l'Éternel. « Au moment favorable, je répondrai à ton appel, et au jour du salut, je viendrai à ton aide. Je te protégerai, et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple et pour relever le pays, pour faire le partage des patrimoines dévastés. » Ésaïe 49, verset 8. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul cite cette parole et la considère accomplie. L'Éternel répond favorablement au Messie qui a invoqué la grâce divine en faveur des pécheurs. En temps voulu, et par son serviteur, Dieu accomplira à la fois le salut du monde et le rétablissement du royaume d'Israël. L'œuvre du Christ sur la croix date déjà de 2000 ans. Mais la restauration d'Israël n'aura lieu qu'à la fin des temps. Je continue. « Je t'établirai pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui demeurent dans les ténèbres, montrez-vous. Et ils se nourriront partout le long des routes, sur toutes les hauteurs arides. Ils trouveront de quoi manger. » Ésaïe 49, verset 9. À la fin des temps, les Israélites seront persécutés et emprisonnés par l'Antichrist qui les pourchassera sans relâche. Mais une fois ce dernier détruit par Jésus-Christ, les Juifs libérés retourneront en foule dans leur pays, et les incrédules croiront en leur Messie et seront sauvés. Je continue. Ils n'endureront plus ni la faim, ni la soif, la chaleur du désert et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui les aime les conduira, et il les amènera auprès des sources d'eau. Et toutes mes montagnes, je les transformerai en chemin praticable, je remblerai mes routes. Ésaïe 49, les versets 10 et 11. Ces bénédictions d'Israël restauré rappellent les soins que l'Éternel a prodigués au peuple hébreu pendant ses 40 années de pérégrination dans le désert. Les non-juifs, devenus croyants, qui auront échappé à la colère de l'agneau par la foi, entreront dans le millénium en compagnie du reste rescapé d'Israël. Je continue. Les voici, ils reviennent de loin, les uns du septentrion et de l'occident, les autres du pays de Sinim. Ésaïe 49, verset 12. Le prophète voit revenir les Israélites de la grande diaspora. Même de Chine, où avant l'ère chrétienne, les Juifs ont émigré. Je continue. Aux cieux, poussez des cris de joie, aux terres, réjouissez-vous, criez de joie, montagne, parce que l'Éternel a consolé son peuple et qu'il a compassion des affligés. Ésaïe 49, verset 13. La nature personnifiée se réjouit, parce que dans sa miséricorde, Dieu a délivré son peuple qui souffre et l'a ramené dans son pays. Alors, tout rentrera dans l'ordre. Jésus-Christ dirigera le monde de son trône à Jérusalem et Israël servira l'Éternel. Dans les cieux, l'Église célébrera les noces de l'agneau et Satan sera enfermé dans le séjour des morts. On pourra alors proclamer avec justesse « Dieu règne dans les cieux et tout est bien sur terre ». Mais nous n'en sommes pas encore là. Je continue. Cependant, si on dit l'Éternel m'a abandonné. Oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesserait-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même, si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Ésaïe 49, les versets 14 à 16. Les ruines désertes de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, sont personnifiées par une femme en deuil qui a perdu son mari et ses enfants. Elle se plaint d'être abandonnée, Mais l'amour de l'Éternel pour son peuple est comme celui d'une véritable mère. Il ne faillit pas. Je continue plus loin en compressant. Porte les yeux autour de toi. Regarde, ils se rassemblent tous et ils viennent vers toi. Car ton pays en ruine, désert et dévasté, deviendra trop étroit pour tous tes habitants. Ceux qui te dévoraient auront fui loin de toi. Tu entendras tes fils dont tu étais privé te dire de nouveau, « Ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place pour que nous puissions habiter ici. » Alors tu te demanderas, « Qui donc a mis pour moi tous ces enfants au monde? J'étais privé d'enfants, stérile et banni en exil. Qui donc a élevé ceci? J'étais demeuré seul. Cela, d'où viennent-ils ?» Ésaïe 49, 18 à 21. Au début du millénium, tous les Israélites de la diaspora qui ont accepté Jésus-Christ comme Messie rentreront dans leur pays en compagnie de nombreux non-juifs, eux aussi, croyant en Jésus-Christ. Jérusalem est surprise de voir qu'elle a tant d'enfants et se demande d'où ils sortent. Ce sont des païens qui ont été enfantés, c'est-à-dire qui se sont convertis pendant les 7 années qu'a duré la tribulation sous la botte de l'Antichrist et qui sont maintenant incorporés à la nation juive. Il y aura tellement de monde que la Palestine sera trop petite pour les recevoir. Après le chapitre 19 d'Ésaïe, ils seront aussi en Égypte et sans doute ailleurs. Cependant, cette prophétie nous concerne également puisque dans son épître aux Galates, Paul l'applique à la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire à l'Église universelle. Je continue le texte. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je lèverai la main vers les nations païennes, je dresserai mon étendard en direction des peuples, ils ramèneront tes fils dans leurs bras, ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Ésaïe 49. Verset 22. Ésaïe a déjà utilisé l'image de l'étendard déployé pour évoquer la participation de non-juifs au nouvel exode vers la terre promise. Les peuples païens convertis à l'Éternel, c'est-à-dire à Jésus-Christ, aideront et accompagneront les Israélites dans leur pays et seront à leur service. Ils prendront une part active et joyeuse à ce grand rassemblement du peuple de Dieu. Cette prophétie est remarquable au vu du fait que ce sont les nations païennes qui ont orchestré la persécution des Juifs et qui les ont chassés de leur pays. Après les avoir autorisés à retourner en Palestine, la Grande-Bretagne a changé d'avis et a fait le blocus du pays. Mais en 1948, ils sont quand même rentrés chez eux d'une manière ou d'une autre. Et malgré les guerres à répétition, des attentats et toutes les exactions qu'on leur fait subir, les Juifs continuent à retourner en Israël. Je continue plus loin en compressant, et je finis de lire le chapitre 49. Pourrait-on enlever ce qu'a pris le guerrier? Les captifs du tyran seront-ils délivrés? Voilà ce que dit l'Éternel. Les captifs du guerrier lui seront enlevés. Ce qu'a pris le tyran va être délivré. J'amènerai tes oppresseurs à s'entre-déchirer. Alors, tout le monde saura que celui qui te sauve, c'est moi. C'est l'Éternel, que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Ésaïe 49, les versets 24 à 26. Les Israélites captifs de Babylone, et à la fin des temps captifs de l'Antichrist, exprime un doute sur la capacité de l'Éternel de les délivrer. Mais cette délivrance ne fait pas l'ombre d'un doute, et elle aura lieu sans même qu'Israël y participe. Ses ennemis s'entretueront dans des révolutions et des guerres civiles. Ces événements arriveront afin que le monde sache que l'Éternel seul est Dieu. Nous arrivons au chapitre 50, où l'Éternel assure à son peuple qu'il ne l'a pas abandonné, mais seulement puni. Je commence à lire. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce, en vertu de laquelle j'aurais répudié votre mère? Ou quel de mes créanciers vous ai-je donc vendu? Non, vous avez été vendu à cause de vos fautes. Et ce sont vos révoltes qui ont été la cause de la répudiation de votre mère. Ésaïe 50, verset 1. La métaphore du mariage est fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament pour décrire les relations entre l'Éternel et son peuple. Cette union a eu lieu au mont Sinaï lors de la conclusion de l'Alliance de la Loi. La double image de ce verset a pour but de dissiper les doutes exprimés par Israël. Jérusalem représente la nation tout entière. Elle est personnifiée par une mère qui est temporairement renvoyée par l'Éternel son mari, mais non répudiée avec une lettre de divorce qui annulerait le mariage. Si ses fils, les Israélites, sont livrés aux Babyloniens, ce n'est pas parce que Dieu a une dette envers eux. Car il ne doit rien à personne et nul ne peut exercer une pression sur lui. Dieu conserve donc tous ses droits sur Jérusalem et sur les Israélites. Il les rétablira dès qu'ils reviendront à lui, et ce qui aura lieu à la fin des temps après une série de jugements terribles. Je continue le texte. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec, et je réduis les fleuves à un désert. Leurs poissons pourriront par manque d'eau, ils pourriront de soif. J'habillerai le ciel de noir, et je le couvrirai d'un habit de toile de sac. Ésaïe 50, les versets 2 et 3. Le noir et un habit de toile de sac sont des signes de deuil suite à une catastrophe. Ici, la détresse est due à un jugement de Dieu. L'Éternel demande pourquoi les Israélites ne sont pas disposés à croire en lui et à lui obéir alors qu'ils ont été témoins de sa puissance en Égypte, lorsqu'il a asséché la mer Rouge, fait périr les poissons et qu'il a ouvert le fleuve du Jourdain afin que le peuple puisse passer à pied sec. Mais depuis déjà l'époque de Moïse, Israël a le cœur dur vis-à-vis de Dieu et il est indifférent envers les prophètes et la loi. L'Éternel est personnellement venu chez les siens, et ce ne fut pas sur le mont Sinaï avec le tonnerre et les éclairs, non. Dieu est apparu comme un simple homme en la personne de Jésus. Mais il n'a pas été bien accueilli à sa naissance. Puis son enseignement a été rejeté, et finalement, il a été livré aux Romains pour être crucifié. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a dit « Jésus de Nazareth a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. » Acte 2, versets 23 et 24. Et dans le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, on lit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Jean 1, verset 11. La question qui vous concerne est celle-ci. Avez-vous vraiment accueilli Jésus ?